action de la foi, chaque fois qu'on reçoit un message. Et je vous invite à prendre vos Bibles entre vos mains. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous avez reçu sûrement une feuille à la porte. S'il y a des gens qui n'ont pas reçu une feuille, mais vous en aimeriez en avoir une, juste levez la main, un placier va vous donner une feuille. Mais on va faire cette déclaration de la foi. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on a bien débuté notre campagne de croissance spirituelle, 40 jours en 7 buts. On a des vingtaines de groupes qui se rencontrent tous les jours de la semaine et j'espère que vous avez participé. Sinon, je vous encourage à embarquer. C'est jamais trop tard de faire partie d'un groupe d'impact pour étudier la parole de Dieu, avoir des temps de partage. Mais aujourd'hui, on va faire un message vraiment important qui s'appelle « Façonner pour la famille de Dieu ». Comme vous avez remarqué, déjà on a chanté à propos de la famille de Dieu, on a déjà eu un baptême d'eau, on a vu des enfants qui participent pendant la réunion. Mais pendant cette campagne, 40 jours en 7 buts, notre objectif c'est de découvrir 5 objectifs que Dieu a déterminés, même avant la fondation du monde, qui vont déterminer notre raison d'être et qui vont nous donner, on pourrait dire, une piste à suivre, un chemin à suivre pour arriver à notre destinée dans la vie. On a déjà répondu à la question « Pourquoi suis-je sur terre? » Et on a vu que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés pour lui. Nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. La semaine passée, on a parlé du premier objectif qui est quoi? L'adoration. Vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. Dieu vous aime et Dieu prend plaisir en vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mémorisé le verset pour la semaine? Hein? J'aimerais l'entendre. Amen. C'est bien. Bon, vous pouvez vous féliciter. Vous avez bien fait ça. Excellent. T'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et on a parlé de l'importance d'aimer Dieu. En fait, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que l'adoration, c'est aimer Dieu en retour. Dieu nous a aimés en premier. Il nous a démontré son amour et on répond à lui. Notre adoration, c'est notre réponse à Dieu. C'est pas juste chanter, mais c'est vivre pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? De vivre pour lui avec tout notre temps, tous nos talents, tout notre trésor et même notre temple ou notre corps physique. Tout est dévoué à lui pour lui faire plaisir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que, il y a un couple de versets qu'on va lire, que nous avons été façonnés pour la famille de Dieu. Et si vous voulez voir dans vos notes, même Hébreux 2, 10 dit, en effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils, on peut dire des filles aussi, à participer à la gloire. Donc, on voit ici quelque chose d'extraordinaire. Que peu importe l'image que vous avez de Dieu dans votre tête, hein, parce qu'on a toutes sortes d'arrière-plans ici, hein, qui sont représentés. Il y a des personnes ici qui ont grandi avec la religion. Il y a d'autres personnes qui ont grandi avec aucune religion. Et il y a des personnes qui ont grandi avec toutes sortes d'idées religieuses à propos de Dieu. Et si on poserait la question à 100 personnes qu'on pourrait choisir juste par hasard dans la rue, on demanderait qu'est-ce que Dieu a l'air, c'est quoi son tempérament, explique-nous hein, la caractéristique de Dieu qui est le plus prominent dans ta tête, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a toutes sortes de réponses qu'on va avoir. Il y a des personnes qui voient Dieu comme un juge, juste, hein, un veilleur avec une longue barbe blanche, avec un bâton dans la main qui est prêt à taper tout le monde sur la tête à chaque fois qu'il fait une gaffe, envoyer les éclairs pour punir tout le monde. Il y a des gens qui ont toutes sortes d'idées de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce verset ici? Avant tout, premièrement, La première chose qu'on voit à propos de Dieu, c'est que Dieu est un père. Et que Dieu veut avoir une famille. Amen. Est-ce qu'il est un juge? Oui. Mais il est un juge qui est juste, équitable, et il est plein de miséricorde aussi, n'est-ce pas? En fait, Dieu dit dans la parole de Dieu que la miséricorde triomphe sur le jugement. Donc, même avant de voir Dieu comme un juge, ou comme le Dieu redoutable, on devrait avoir cette image de Dieu qui est d'amour, qui est un père, qui aime sa famille, et qui a toujours voulu avoir beaucoup de fils. Donc, vois-tu, Dieu aime les familles, et Dieu, en fait, pour sa famille, ne voulait pas avoir juste quelques enfants, il voulait avoir une famille nombreuse. Et les gens qui pensent que j'ai une famille nombreuse, j'ai 5 enfants, mais laisse-moi vous dire, 5 enfants, c'est pas grand-chose, hein? On connaît quelqu'un qui, sa grand-mère venait de Trois-Rivières, et eux autres, ils avaient 7 de jumeaux. Plus, ils avaient d'autres enfants, ils avaient 21 enfants en tout, hein? Laisse-moi vous dire que ça, c'est une famille nombreuse. Selon mes standards, hein? Mais selon les standards de Dieu, 21 enfants, c'est rien. Dieu est un père, il veut avoir beaucoup de fils, c'est-à-dire il veut les millions et des milliards des enfants dans sa famille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que chaque enfant est spécial. Chaque enfant, les enfants de Dieu ne vont pas se perdre dans la foule. Hein? Ils vont avoir une attention spécifique. Hein, Dieu est capable de parler à 1 milliard d'enfants à la fois. Je n'ai pas cette capacité. Même avec mes 5 enfants, des fois, je pense que j'ai besoin de me multiplier, d'être au moins 5 personnes. Parce que quand j'ai 2-3 enfants qui me parlent en même temps, c'est comme, wow, wow, attends une minute. Mais Dieu ne va jamais dire, attends, wow, wow, une minute là. Il est toujours à l'écoute. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, même s'il y a 1 million à la fois. Même s'il y a 5 milliards à la fois. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Il y a un autre verset ici, Éphésiens 1, 5, qui dit, « Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants. » N'est-ce pas quelque chose? Hein? Tout le monde qui fait partie de la race humaine est la création de Dieu. Dieu a créé tout le monde. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'est pas encore enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ces gens-là, il a donné le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a seulement 2 groupes de personnes sur la planète. Il y a des personnes qui ont fait tous partie de la race humaine et Dieu est le créateur de tout le monde. Mais sur la planète Terre, il y a 2 groupes d'humanité. Il y a ceux qui sont séparés d'avec Dieu à cause de leur péché, hein, et qui sont morts spirituellement. Et il y a ceux qui ont été transportés du royaume des ténèbres. Hein, ils ont été délivrés de la puissance du péché. Ils ont reçu le don gratuit de la vie éternelle. Ils sont, on pourrait dire, passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, ils sont, comme Jésus a dit, nés de nouveau. Et quand ils sont nés de nouveau, ils sont nés dans une famille. Et la famille de Dieu est comprise de tous ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, et qui marchent avec lui. Ces gens-là font partie de la famille de Dieu. Amen. Et c'est merveilleux. Ici, en Pierre, chapitre 2, verset 17, on sait qu'on est appelé à aimer Dieu, le Père, mais aussi Dieu veut qu'on apprenne à aimer nos frères et nos sœurs dans la famille. En fait, la Bible dit, aimez vos frères en la foi. C'est un commandement. Aimez vos frères. C'est pas une suggestion. Aimez vos frères. On va voir aujourd'hui combien il est important d'aimer nos frères dans le Seigneur. Donc là, on voit, nous sommes fascinés pour la famille de Dieu et que mon deuxième objectif dans la vie, dans vos notes, mon deuxième objectif dans la vie est de faire partie de la famille de Dieu. Et combien il est important. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'être sauvés de leurs péchés. Et ils veulent recevoir Jésus comme Seigneur et comme sauveur. Mais le problème, c'est que il veut rien avoir avec la famille de Dieu. Il veut rester isolé. Il veut dire des choses genre, mais tu sais quoi? Moi, j'ai pas besoin de faire partie d'une église. Je n'ai pas besoin d'assister à une assemblée, parce que pour moi, mon église, c'est les forêts, ou c'est le terrain de golf, et c'est là où je peux parler à Dieu. J'ai rien contre ça. Parler à Dieu pendant que tu joues au golf, ça fait partie de l'adoration, comme on a dit la semaine passée. On devrait adorer Dieu 24 heures sur 24 quand on est au travail, quand on est en train de faire des loisirs ou peu importe qu'est-ce qu'on fait, où on est, on devrait adorer Dieu. Mais on ne peut pas être un chrétien sans faire partie de la famille de Dieu. Amen? Quand vous allez mourir et rencontrer Jésus, Jésus ne va pas dire, entre dans mon royaume, et il va pas te mettre dans une pièce quelque part, isolée. Ça serait pas juste toi et Jésus au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous serez là au ciel avec des millions d'autres personnes qui font partie de la famille. Et vous allez passer l'éternité avec les frères et les sœurs qui font partie de lui. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia! Il y a des gens qui disent, je sais pas si c'est merveilleux. Il y a certains frères, certaines sœurs qui me tapent sur les nerfs. Mais ils vont plus te taper sur les nerfs au ciel, hein? Je suis pas mal convaincu de cela parce que leur chair va être remplacée par un corps glorifié, n'est-ce pas? Mais 1 Jean 4, 21, regarde bien. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc c'est pas assez juste de dire, mais moi j'aime Dieu, mais je hais les chrétiens. J'ai entendu des personnes dire les choses de même. Je déteste les chrétiens, mais j'aime Dieu. Moi et le Seigneur, c'est mon pote, c'est mon chum, c'est mon ami. On a une bonne affaire entre nous. Et Non. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut absolument qu'on soit en communion avec toute la famille de Dieu. Et en fait, la communion, c'est aimer et soigner. Prends soin de la famille de Dieu. Ça, c'est dans vos notes. La communion, on parle de la communion et il y a peut-être toutes sortes d'idées qui viennent dans ta tête quand on parle de la communion. Mais avoir la communion, c'est-à-dire qu'il faut être en communion avec Dieu, mais aussi il faut aimer et soigner la famille de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? 1 Timothée 3, 14 et 15 dit ceci. Je t'écris cependant tout cela afin que tu saches comment on doit se comporter dans la famille de Dieu. Tout le monde dit la famille de Dieu. Et là, il va nous dire, c'est quoi la famille de Dieu? C'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Est-ce que vous avez saisi? La famille de Dieu égale l'Église. L'Église égale la famille. Donc, l'Église de Jésus-Christ, c'est pas un club, n'est-ce pas? On ne s'inscrit pas dans l'Église comme on peut s'inscrire dans le club optimiste ou comme on s'inscrit dans une équipe de hockey ou quelque chose de ce genre-là, on s'inscrit pas dans une église. Il faut premièrement naître dans l'église. On s'inscrit pas dans une famille. Vous êtes d'accord? Quelqu'un n'arrive pas chez toi. Est-ce que je peux m'inscrire pour être membre de ta famille? Non, en général, il faut naître dans la famille ou être adopté dans la famille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que dans le Seigneur, il nous aime tellement qu'il nous a donné une nouvelle naissance, on est né dans sa famille, et en plus, il nous a adoptés dans sa famille. C'est quoi la différence? On est comme un enfant et on peut grandir comme un enfant et devenir adulte dans une famille, n'est-ce pas? Mais quand la parole parle de l'adoption et qu'on peut devenir les fils de Dieu, là, ça parle d'un fils qui est adulte et qui a tous les droits d'un fils adulte dans la famille. Je ne sais pas si tu comprends cela, mais un jour, on pourrait faire une autre étude là-dessus en Romains chapitre 8. L'Esprit Saint est à nous et l'Esprit d'adoption. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois que tu es né de nouveau, tu es adopté tout de suite dans la famille aussi et Dieu te considère légalement parlant comme un fils adulte dans sa famille. C'est-à-dire que tu as tous les droits. Autrefois, il y avait des esclaves dans le temps de la Bible. Et les esclaves, des fois, servaient leur maître avec à fidélité. Et des fois, un maître disait, « Mais moi, je veux t'adopter dans ma famille. Tu ne seras plus mon serviteur, tu seras mon fils. » Et en tant que fils, tu vas avoir droit de porter l'anneau, par exemple, avec le sceau de la famille. Tu vas pouvoir faire des transactions, acheter et vendre les choses en mon nom, dans le nom du père de la famille. Tous les droits, tout mon héritage t'appartient. Parce que les enfants qui sont nés dans la famille, des fois, ils avaient besoin d'attendre jusqu'à l'âge d'être adulte afin de pouvoir participer et avoir tous les privilèges d'un enfant adulte. Ils ne pouvaient pas faire les transactions, ils ne pouvaient pas avoir leur héritage avant de devenir adulte. Mais en Jésus-Christ, vous êtes nés de nouveau dans la famille de Dieu et en plus, vous êtes adoptés. Dieu dit, vous êtes maintenant considérés légalement comme mon fils adopté. Je vous donne l'autorité, je vous donne le sceau de la famille, je vous donne tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Wow! Je fais partie de la famille royale! Et je ne suis pas juste n'importe qui dans la famille. Je suis adopté et je suis considéré comme un enfant adulte. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de grandir parce qu'en pratique, ça se peut que vous êtes encore bébé. Et vous avez besoin de la maturité et grandir dans la famille. Mais là, on parle des choses vraiment intéressantes parce que ici, comme ce verset dit, « Je t'écris cependant tout cela afin que tu saches comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu vivant. » Et une chose que je veux que ça soit clair, c'est que quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur, que vous êtes devenu automatiquement et instantanément membre de la famille de Dieu. Et membre, on pourrait dire, de l'Église universelle de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de faire partie de la vie comblée, ou l'église de Pentecôte, ou l'église baptiste, ou une église catholique, ou n'importe quelle église méthodiste ou luthérienne, ou n'importe quelle confession, vous n'avez pas besoin de faire partie d'une dénomination afin de faire partie de l'église universelle. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de confesser avec votre bouche et croire dans votre cœur, et vous êtes né dans la famille de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire que tous ceux et celles qui ont déjà fait la même chose, qui ont reçu Jésus, ils sont vos frères et vos sœurs dans le Seigneur. Je peux aller en Chine aujourd'hui et rencontrer un frère. Des milliers, des millions même. Vous pouvez aller traverser l'Atlantique et aller en Europe et aller en Allemagne et rencontrer des frères, des sœurs. Vous ne comprenez même pas qu'est-ce qu'ils disent, mais vous allez reconnaître tout de suite, ils sont nés du même esprit. Vous faites partie de la même famille. Parce que nous sommes une église universelle, n'est-ce pas? Pourtant, même si on a une église universelle, Dieu, dans sa sagesse, a pris une décision d'établir les églises locales aussi. C'est-à-dire que chaque chrétien devrait faire partie, pas juste d'une église universelle, on a besoin de faire partie d'une église locale aussi. C'est comme moi, je suis père de 5 enfants. Ils portent tous le nom Taylor. Un jour, et tout le monde vit avec moi actuellement, 2755 de la Topaz, tout le monde habite sous le même toit. Mais un jour, je crois que mes enfants vont grandir et se marier. Même si ma fille m'a dit ce matin, « Non, moi je ne vais pas me marier, je vais rester dans cette famille. »« Ah oui, pourquoi? » »« Oui, papa, parce que tu m'appelles, tu dis toujours que je suis ta princesse et j'aime ça. » Donc, elle veut rester, mais je ne suis pas inquiet parce qu'il y a 2 semaines, elle parlait de vouloir se marier. Donc, tu sais, les filles changent d'idée souvent, hein? Donc, juste pour vous réveiller, là. Mais, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'un jour, ils vont grandir, ils vont se marier, et sûrement, une fois mariés, ils commencent à avoir leurs propres enfants, tout le monde ne va pas rester chez moi. Ils peuvent tous venir nous rendre visite à l'occasion, rester une semaine, 2 ou 1 mois, c'est parfait, mais laisse-moi vous dire, s'ils veulent rester en permanence chez moi, ça ne va pas fonctionner. Ils ont besoin d'aller établir leur propre famille, autonome, n'est-ce pas? Mais ils font toujours partie de la famille Taylor. Il y a toujours un lien entre chaque foyer, entre chaque famille. Les enfants d'Andrew vont être les cousins ou les cousines de les enfants de Michael. Et tout le monde va avoir quand même des bons rapports et une relation les uns avec les autres, mais ils ne vivent pas tous sous mon toit. Et l'Église est exactement de la même façon. Ça marche de la même façon. Parce qu'il y a l'Église universelle, mais Dieu a décidé de diviser son Église universelle dans les Églises locales. Il a mis les pasteurs en charge de chaque église locale. Il y a des membres de chaque église locale. Et même si, comme nous avons fait avec l'église de Pentecôte il y a quelques semaines, on a fait une activité ensemble. Tout le monde était au cégep ensemble. On faisait une réunion ensemble. Aujourd'hui, à 2 heures, il y a une équipe de l'église de Pentecôte qui vient ici. Et on va prier avec eux pour la campagne 40 jours en sabbat. Donc, on a quand même un contact. On est parenté avec eux. Mais eux autres, ils ont leur propre église, ils ont leur propre vision, ils ont leur propre mission, ils font leur propre affaire. Et c'est important qu'on soit attaché à une famille locale. Mes enfants sont attachés à ma famille. Je sais combien d'assiettes à mettre autour de la table à chaque fois qu'on mange, n'est-ce pas? S'ils veulent aller manger chez un ami, pas de problème. Ils vont appeler et dire, est-ce que je peux manger chez mon ami? Pas de est-ce que mon ami peut venir chez nous ce soir? Pas de problème, on va mettre une autre assiette. Mais il y a quand même un ordre. Et c'est ça que Dieu veut dans l'Église. Ça fait partie de notre objectif. On ne peut pas atteindre le maximum de notre potentiel dans la vie si on n'est pas en communion avec une famille locale dans le contexte d'une Église locale. Il est impossible. 1 Corinthiens 12, 25 dit ceci. « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Tout le monde dit, « Je suis membre du corps de Christ. » Amen. Donc, vous savez, si on prend l'exemple du corps physique, je dis toujours aux gens qui viennent au Seigneur, si tu viens de naître dans la famille de Dieu, ta première responsabilité, c'est de savoir qui vous êtes dans la famille. Quelle partie du corps? Hein? Est-ce que vous êtes le doigt de la main gauche dans le corps de Christ? Si vous êtes le droit de la main gauche, pardon, je connais la différence, ça c'est votre gauche. Hein? Si je suis le doigt de la main gauche dans le corps de Christ, ma première responsabilité, c'est de trouver, quand je viens au Seigneur, c'est de trouver la main gauche et de m'attacher là. Parce que si je ne suis pas attaché à la main gauche, je ne serai pas capable d'atteindre le maximum de mon potentiel. Je ne serai jamais capable de faire ce que je suis créé de faire, n'est-ce pas? Un membre séparé d'avec le corps ne peut pas fonctionner. Le corps séparé d'avec le membre peut fonctionner, mais le corps va souffrir. Hein? Je peux prendre une hache et découper mon doigt aujourd'hui, je n'ai pas le goût de le faire, mais qu'est-ce qui va arriver? Mon corps va souffrir, mais probablement survivre. Mais le doigt qui est détaché va sécher et mourir, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour vous et pour moi. Si je suis pas ici, nous ne sommes pas attachés au corps de Jésus-Christ, on ne peut pas fonctionner et réaliser les objectifs que Dieu nous a confiés dans la vie. En Jean 3, 14 dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Donc encore, nous voyons que pour être en communion avec Dieu, il faut être en communion avec le corps de Jésus-Christ, avec la famille de Dieu, avec l'Église de Jésus-Christ. Et je suis convaincu d'une chose, que si on pourrait avoir une ligne directe maintenant avec le Seigneur Jésus au ciel, on a une ligne directe avec lui dans la prière, mais si ce matin on pourrait avoir une ligne directe et on pourrait le voir sur l'écran et on pourrait lui poser la question, « Seigneur Jésus, dis-nous, dévoile ton cœur ce matin. Dis-nous, c'est quoi qui est la chose la plus précieuse à tes yeux et dans ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes plus que tout dans l'univers entier? » Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, mon Église, ma famille. Jésus aime l'Église. L'Église est appelée l'épouse de Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre, il a poursuivi avec passion son épouse. Il s'est donné en sacrifice, il s'est laissé clouer à la croix pour son Église. Il n'y a absolument rien qui est plus important aux yeux de Jésus que l'Église. C'est-à-dire l'Église universelle et l'Église locale aussi. Amen? Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a absolument rien de plus important aux yeux de Jésus, on devrait avoir la même attitude par rapport à l'Église, n'est-ce pas? Oh, c'est plus silencieux là. Mais là, je ne comprends pas. Hein? Si Jésus aime l'Église, si Jésus était prêt à mourir pour l'Église, on devrait avoir la même passion, le même amour, n'est-ce pas? Pour l'Église. Il n'y a rien de plus important. Mais il y a trop de chrétiens qui vont regarder l'Église comme un club ou une activité extra qu'ils vont faire s'ils ont le temps. Hein? J'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes loisirs et j'ai mon église. Mais en réalité, l'église devrait être incorporée dans un sens dans toutes ces choses aussi. Amen. Parce que vous êtes l'église. L'église est universelle, l'église est locale et l'église est personnelle, c'est vous aussi. Jésus a dit, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il allait bâtir son église universelle, il allait bâtir les églises locales et il allait vous bâtir aussi. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Donc, il faut être en communion avec l'église de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ôter de vos pensées toutes ces idées religieuses de l'église. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, on dit le mot « église » et déjà, il y a certaines personnes ici qui ont des frissons. Parce qu'ils ont été abusés par les églises ou déçus par les églises. Ou ils ont eu toutes sortes de mauvaises expériences dans les églises, dans toutes sortes de contextes différents. N'est-ce pas? Mais quand je parle de l'église, je parle de la véritable famille de Dieu. Tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, hein, qu'ils soient au ciel ou sur la terre, et on parle de l'Église universelle, mais aussi des églises locales qui sont vraiment établies par la volonté de Dieu et qui fonctionnent selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, être en communion avec Dieu, c'est le deuxième objectif que Dieu m'a donné pour ma vie. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'en réalité, il y a quatre niveaux de communion qu'il faut avoir avec l'Église, qu'il faut avoir avec la famille de Dieu. Si ça vous dérange de dire le mot « Église », dites « famille de Dieu ». Jusqu'au temps que votre intelligence est renouvelée et vous réalisez que l'Église, c'est pas un gros mot, hein? C'est une bonne chose, c'est positif. Alléluia. Donc, la première chose, niveau 1, c'est d'être membre. Et quand on parle d'être membre, c'est-à-dire de choisir d'appartenir. Choisir d'appartenir. Savez-vous que vous avez besoin de choisir d'appartenir à l'Église universelle? Dieu ne va pas forcer qui que ce soit d'être né de nouveau. Dieu met devant nous la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, mais c'est à nous de choisir. On peut choisir de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, ou on peut choisir de rejeter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Un jour, regardez-moi bien, un jour, tout le monde, chaque membre de la race humaine, va confesser que Jésus est Seigneur. Le problème, c'est que ceux qui ne le font pas de ce côté de la mort, pour eux, ça va être trop tard. Il faut confesser Jésus, il faut accepter Jésus, il faut recevoir la vie éternelle maintenant, pendant qu'on est en vie physiquement. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Aujourd'hui, nous sommes dans une journée de la grâce. Et Dieu a ouvert une porte pour nous. Il dit que tous ceux qui veulent, ils peuvent venir à lui. Tous ceux qui confessent le Seigneur Jésus peuvent être sauvés. Le salut, c'est pour tout le monde, c'est gratuit. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour mériter le salut. Mais il faut recevoir le salut, il faut décider que vous voulez appartenir à la famille de Dieu. Et si votre décision aujourd'hui n'est pas encore prise, je vous exhorte à prendre cette décision. Aujourd'hui, même avant de quitter, avant de partir d'ici, vous pouvez être né de nouveau. Ça ne prend pas une semaine, ça ne prend pas 9 mois pour naître de nouveau, hein, comme ça prend 9 mois pour naître dans le naturel, dans un clin d'œil, avec une confession de la foi, avec une croyance sincère du cœur, vous pouvez naître de nouveau aujourd'hui. Il faut choisir d'appartenir et devenir membre automatiquement de l'Église universelle, même si vous n'êtes pas membre d'une église locale. Mais, une fois que vous êtes né de nouveau et que vous êtes dans l'Église universelle, c'est là où il faut décider et prendre une décision d'appartenir à une famille locale aussi. Le Seigneur, je suis né de nouveau, je suis un membre dans le corps. Est-ce que je suis un pied? Est-ce que je suis une main? Est-ce que je suis un nez? Montre-moi qui je suis et montre-moi où est ma place dans ton corps. Il y a une famille ici sur la terre, quelque part, qui est prête à me recevoir. Est-ce que c'est à la vie comblée? Si c'est à la vie comblée, je vais choisir d'appartenir à la vie comblée. Si c'est dans une autre église, je vais choisir d'appartenir à une autre église. Mais une fois que mon choix est fait, je vais rester fidèle et je vais m'impliquer, je vais contribuer à l'église. Mais il faut choisir. Parce que sinon, vous ne serez jamais capable de réaliser votre destinée ici sur la terre. Le droit ne peut pas réussir sans la main. Amen. Le nez ne peut pas réussir sans le visage. Vous êtes d'accord? Donc, premièrement, il faut choisir d'appartenir. Il y a quelques versets qu'on va lire. Éphésiens 2, 19 dit, « Vous êtes maintenant concitoyennes des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. » Tout le monde dit, « J'appartiens à la famille. » Amen. « Nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous et chacun pour notre part membres les uns des autres. » 1 Corinthiens 12, 13. « En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » Et puis Romains 6, 3. Ça nous fait penser à Annie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vient de faire en se faisant baptiser? « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec ça que nous avons été baptisés, comme le Christ a été ressuscité dans... » Mais regarde bien. Annie a pris une décision d'appartenir à la famille de Dieu, de se faire baptiser. Hein? C'est pas en se faisant baptiser, c'est pas ça qui a fait en sorte qu'elle est attachée à l'église locale. Ça n'a rien à voir. Le baptême d'eau, c'est par rapport à notre appartenance dans l'église universelle aussi, n'est-ce pas? En fait, on fait partie de l'église universelle dès que nous sommes nés de nouveau, et quand on se fait baptiser, ça c'est juste, on pourrait dire, une... signe extérieur de qu'est-ce qui s'est déjà passé à l'intérieur. Amen. On démontre au monde entier, on dit que j'ai pas honte de Jésus-Christ, j'ai pas honte de vivre pour lui, et je vais dire à tout le monde que j'étais la personne que j'étais auparavant est morte, et maintenant je suis enterré avec Jésus, ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Donc, mais après cela, il faut, comme j'ai dit, prendre cette décision de faire partir et d'appartenir à la famille de Dieu. Le deuxième niveau de communion que l'on devrait avoir avec la famille de Dieu, c'est l'amitié. C'est pas assez juste d'être membre de la famille de Dieu ou même d'être membre d'une église locale. Il est bon d'apprendre à partager notre vie aussi. Apprendre à partager. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on soit son ami, mais il veut que nous ayons des amis dans l'église aussi, n'est-ce pas? Acte 2, 44, on voit au début de l'Église que tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. On voit un esprit de partage. On est dans la même famille. Si tu as un besoin, j'ai un besoin. Si tu as quelque chose de bien qui s'est passé, je veux me réjouir avec toi. Mais comme on va voir, il y a trois choses en général qu'on a besoin de partager. Et c'est dans vos notes. On doit partager premièrement nos expériences. Et des fois, quand on partage nos expériences, c'est agréable. Des fois, quand on partage nos expériences, c'est désagréable, mais ça fait du bien. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Savez-vous que des fois, le Seigneur va nous mettre avec quelqu'un et c'est vrai que des fois, c'est comme papier de sable et ça frotte, mais pas dans le bon sens et il y a une friction. Mais comme la Bible dit, la faim aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Et savez-vous que vous avez eu des expériences dans votre vie et je peux apprendre de vos expériences. J'ai eu des expériences dans ma vie et vous pouvez apprendre de mes expériences. Ou, si vous voulez, vous pouvez juste apprendre tout seul et ça va prendre 10 fois plus longtemps. Hein? Vous avez le choix. Il y a des personnes qui peuvent tout simplement lire avant de toucher une clôture électrique. Ils vont lire et être avertis. C'est tout. Ils vont apprendre par la lecture. Il y a d'autres personnes qui vont apprendre par l'observation. Ils vont regarder et voir qu'est-ce qui se passe quand les autres touchent la clôture. Ils vont apprendre. Et puis, il y a toujours les gens qui insistent et il faut absolument toucher la clôture humaine. Oui, j'essaie de lire. J'ai lu ça, mais peut-être pour moi, ça serait différent. Je sais pas, mais c'est jamais différent, hein? Je sais que Dieu a dit qu'il faut faire les choses de telle façon, et je sais que je connais beaucoup des gens qui ont détruit leur vie avec tel péché, mais ce serait pas si grave que ça pour moi. Je serais capable d'en sortir. Hein? Mais c'est là où, quand on vient ensemble dans une famille, on peut apprendre. On peut écrire les choses pour nos frères, on dit, lis ça. On peut donner les bonnes démonstrations des voix. On peut les exhorter, « Hey, touche pas à ça, je l'ai déjà fait. » Et on peut s'entraider, on peut s'encourager, on peut s'exhorter comme ça. Amen. Une autre chose qu'on peut partager, c'est notre hospitalité. Notre hospitalité. La parole de Dieu dit, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. » On sait que dans l'Église primitive, ils se rencontraient régulièrement au temple de Salomon et en plus, ils se voyaient dans les maisons pour les rencontres. Dans les maisons. Tout le monde est dans les maisons. Vous savez qu'une partie intégrante de cette campagne 40 jours en seul but, c'est des groupes d'impact qui se rencontrent dans les maisons. C'est bon de venir ici le dimanche matin. Mais laisse-moi vous dire, vous ne serez pas vraiment capable de développer les amitiés ici dans un contexte avec 140, 150 personnes. C'est difficile. Vous êtes tous en train d'écouter le pasteur maintenant. Vous n'êtes pas en train de partager vos vies, de parler, de jaser. Mais quand vous êtes dans un petit groupe de 3, 4, 5, même jusqu'à 12 personnes, là, vous pouvez partager, vous pouvez parler, vous pouvez prier les uns pour les autres. Vous pouvez rire ensemble, vous pouvez avoir du fun et développer les liens. C'est pourquoi je vous encourage à vraiment, si vous n'avez pas encore fait cela, prenez la décision, même aujourd'hui, de vous attacher à un petit groupe pour les semaines qui restent de la campagne et vous ne serez pas déçus. On a eu tellement de bons témoignages, les gens qui ont eu beaucoup de plaisir et beaucoup de bonnes choses qui sont passées. Puis la troisième chose qu'on devrait partager pour avoir l'amitié dans la communion, il faut partager nos joies et nos peines. Vous savez, c'est pas juste une question d'arriver à l'église avec une sourire peinturée. Ça va bien, oui, ça va bien. Hein? Mon chien vient de mourir ce matin, mais ça va bien. Hein? Mais on a besoin des fois de dire la vérité. Mais je dis pas, hein, parce qu'il y a un équilibre ici. Hein? Certaines personnes, ils sont des victimes et tout ce qu'ils font, ils se plaignent. Et si vous ne faites que vous plaindre, laisse-moi vous dire, vous soyez pas étonnés si les gens commencent à mettre un peu de distance entre eux et vous. Hein? Parce que des fois, on est comme tanné, c'est comme, ah, est-ce que tu as au moins une chose de positive à dire? Hein? On voit une personne, c'est comme, OK, voici, encore, c'est un problème ambulant qui... Et on n'est pas supposé d'être un problème ambulant. On a tous des problèmes, n'est-ce pas? Et il faut trouver de l'équilibre, être capable de dire, tu sais quoi, je passe par un moment difficile, mais je sais que Dieu est avec moi, mais j'aimerais bien si tu pourrais prier avec moi. Ça, c'est correct. Pas juste dire, oui, ça va bien, mais non, oui, ça va bien, mais j'ai quand même un combat. C'est correct, partagez vos peines, partagez vos combats. C'est normal. On a tous des combats. Amen? Je sais, c'est incroyable à croire, mais même les pasteurs ont des problèmes. J'ai mes propres problèmes, en plus, j'ai tous vos problèmes aussi. Donc, vous savez, donc on a tous des moments où c'est plus ou moins facile ou évident. On a besoin de prier les uns pour les autres. On a besoin de partager nos peines, mais n'oublions pas de partager nos joies non plus. Et la parole est claire là-dessus. Il y a vraiment une bonne exhortation ici qui dit, dans la parole, on a verset 15 de Romains 12, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais n'oubliez pas, pleurez avec ceux qui pleurent aussi. » On a besoin de cet équilibre, n'est-ce pas? Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Hébreux 10, 25 dit, « N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. » Savez-vous que tout le monde a besoin d'être encouragé? Vous avez déjà entendu, hein, ils ont fait un petit test. Il y avait deux hommes. C'était un peu ridicule comme test scientifique, mais ils ont mis deux hommes dans deux pièces séparées. Ils ne pouvaient pas se voir. Et il y avait deux bassins pleins d'eau froide, avec des glaces, vraiment de l'eau glacée, des glaçons. Et ils ont demandé à ces deux hommes d'enlever les souliers, les bas, et de se tenir debout dans l'eau glacée. Sauf qu'il y avait un monsieur qui était tout seul dans une pièce, isolé. Et un autre monsieur qui avait plusieurs de ses amis proches avec lui. Et ils ont fait un concours. Qui peut rester le plus longtemps dans l'eau glacée? Et vous savez, hein, le monsieur qui était tout seul, il gelait. Il avait froid, ça faisait mal. Il n'a pas tout à fait longtemps. Et l'autre, dans l'autre pièce, il y avait des amis. « Oh non, reste là-dedans, tu es capable, un peu plus, un peu plus, un peu plus. » Il avait l'encouragement. Et cet encouragement a fait en sorte qu'il a resté trois fois plus longtemps que l'autre monsieur. Et on a besoin de ça. Vous passez par des moments difficiles, vous partagez ça. Mais souvent, c'est dans les groupes d'impact, c'est dans les petits groupes où on va être capable de partager nos peines et de partager nos joies et de s'entraider, de s'encourager comme il faut. Amen. Donc, niveau numéro 3 de la communion, c'est le partenariat. Et là, j'ai besoin de faire ma part. Dans une famille, on a des choses à faire. Vous êtes d'accord? Chez nous, on a la vaisselle à faire. C'est à tous les jours. Hein? Avec 8 personnes qui habitent dans la maison, il y en a la vaisselle. Donc, on a toutes sortes de tâches à faire et c'est plus de fun si tout le monde fait sa part. Vous êtes d'accord? Mais dans une église, c'est la même chose. En fait, 1 Corinthiens 3:9 dit que nous travaillons ensemble au service de Dieu. Nous travaillons ensemble. Que c'est merveilleux de voir que notre église va de l'avant à ce niveau-là. On a de plus en plus des équipes qui sont en train d'être formées. Même dans un couple de semaines, on va avoir un salon de ministères. Vous allez voir tous les ministères d'aide qui sont en train de fonctionner dans cette église. Et vous allez voir peut-être des places où vous allez vouloir servir. Mais combien c'est merveilleux. Je m'en souviens des jours où, quand je suis devenu pasteur ici, que je faisais tellement de choses que maintenant j'ai plus besoin de faire. Je peux m'appliquer à d'autres choses qui sont plus fructueuses pour l'ensemble de l'église. Hein? Ce matin, on a fait un baptême d'eau, mais autrefois, souvent, moi, j'avais besoin de nettoyer le baptistère ou remplir le baptistère et faire les choses. Et maintenant, on a des personnes depuis longtemps là, qui font tout cela. Hein? Il y avait un temps où je faisais toutes sortes de choses qu'en réalité, je n'ai plus besoin de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui partagent le fardeau et que c'est merveilleux. Amen? J'ai même pas besoin d'y penser. Je sais qu'il y a des personnes fidèles qui vont s'en occuper. Merveilleux. Donc, Éphésiens 4, 16, le corps forme en tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Savez-vous que vous avez une fonction et vous avez besoin de fonctionner comme vous devez? Le quatrième niveau de la communion, c'est d'aimer les croyants comme une famille. Aimer les croyants comme une famille. On appelle ça la parenté. Encore, c'est ça qui va distinguer l'Église d'avec un club social. N'est-ce pas? On est une famille, véritablement. Et qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est une révélation dans le cœur que notre lien de l'esprit est plus réel que notre lien du sang. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai des personnes qui sont dans ma parenté, et on a un lien du sang. J'ai les mêmes gènes dans mon système que dans le système de mon père. J'ai des choses en commun avec lui. Et j'aime mon père. Mais pour le moment, je suis pas en communion avec lui comme j'aimerais parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants qui sont vraiment parentés avec vous du sang, vos frères et vos sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Moi, je mets beaucoup l'accent sur l'importance des familles. On devrait honorer nos parents, même s'ils ne sont pas encore chrétiens. Vous êtes d'accord? On devrait développer les bonnes relations avec ceux qui sont dans notre parenté. On devrait passer du temps avec eux. Dans la mesure du possible, n'est-ce pas? Pourtant, il faut comprendre que si ces gens ne sont pas nés de nouveau, je suis quand même plus proche dans un sens avec ceux qui font partie de la famille spirituelle. Parce que ça, c'est un lien qui est éternel. Le lien du sang est passager. Je sais que c'est peut-être dur à entendre cela, mais le lien du sang est passager, mais le lien de l'esprit est éternel. Je serai le frère à Émilien pour éternité. Pour éternité. Et qu'est-ce qui est vraiment de fun, c'est de savoir que j'ai un frère, Steve, qu'il est frère de chair, mais aussi il est frère dans l'esprit, il est né de nouveau. Et ça, c'est une double bénédiction d'avoir les deux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est dans ma famille naturelle, frère du sang, mes frères d'esprit aussi, ça, c'est le best. Mais n'oubliez pas que le lien que nous avons dans le Seigneur Jésus est encore plus solide, encore plus important que tous les liens qu'on pourrait avoir dans la chair. Et c'est pourquoi on a besoin de développer la communion avec mes frères et les sœurs en sachant qu'ils sont véritablement mes frères et mes sœurs. On voit ici en Actes 2, 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. En Jean 3, 16 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jean 13, 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour d'entre vous. Vous savez que on parle des objectifs de Dieu pour votre vie. Le premier objectif, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que vous avez été créés pour le plaisir de Dieu. Mais le deuxième objectif qu'on voit, c'est que vous avez été façonnés pour la famille de Dieu. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la famille de Dieu universelle, malheureusement, vous êtes perdu. Mais même là, même si vous êtes né de nouveau et vous faites partie de l'Église universelle, vous avez besoin de vous attacher à une Église locale parce que vous avez été façonné pour faire partie d'une famille locale. Et dans ce contexte, vous pouvez avoir une communion qui est profonde. Vous pouvez choisir d'appartenir. Vous pouvez partager votre vie. Vous pouvez faire votre part et vous pouvez choisir d'aimer les autres membres de l'Église comme étant membres de votre propre famille. Imaginez la joie, imaginez le fruit que nous allons porter si on pourrait faire cela. Amen. Ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur, la communion, la Sainte Cène, et on va recevoir les éléments, le pain et le jus qui représentent le corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Mais avant de recevoir la Sainte Cène, j'aimerais donner une invitation. Et même si Jean-Charles veut venir, une invitation que je donne à tous les dimanches matins, depuis des années. On n'a pas manqué. Et ça ne va pas changer non plus. Mais ce matin, peut-être vous êtes ici et si vous êtes honnête, vous n'êtes pas sûr et certain de faire partie de la famille de Dieu. Vous avez peut-être des doutes, des points d'interrogation, ou peut-être vous savez carrément que vous êtes en dehors de la famille de Dieu. Je ne vais pas vous inviter ce matin à faire partie de la vie comblée, parce que nous sommes une église locale, une bonne église locale. Mais il y a d'autres bonnes églises locales aussi, n'est-ce pas? Mais je vais vous inviter à faire partie de l'Église universelle. Je vais vous lancer l'invitation de recevoir Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et si après vous prenez une décision de faire partie de la vie comblée, tant mieux. Si le Seigneur vous amène ailleurs, dans une autre Église, tant mieux que tout le monde soit à la bonne place. Vous pouvez aller au ciel, peu importe le nom de l'Église locale. Mais vous ne pouvez pas aller au ciel à moins de porter le nom de Jésus et de faire partie de sa famille. Et ce matin, avec tous les yeux qui sont fermés, parce que on sait que la parole de Dieu dit que quand on prend la Sainte Cène, que chaque personne devrait se juger soi-même et de ne pas prendre la Sainte Cène d'une façon indigne. Il faut discerner le corps de Christ, c'est-à-dire que c'est une chose sainte. Cela ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez parfait, parce qu'il n'y a personne ici qui est parfait. Mais si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, j'aimerais que vous ayez cette occasion de le faire maintenant avant de prendre la Sainte Cène. Et si vous prenez cette décision, on va faire une prière. Vous pouvez prier cette prière avec tout votre cœur. Et maintenant même, dans un clin d'œil, vous pouvez être né de nouveau, transporté du royaume des ténèbres et né dans la famille de Dieu, l'Église universelle de Jésus-Christ. Comme ça, vous allez savoir sans aucun doute que vous avez la vie éternelle. Que vous allez passer l'éternité au ciel avec la famille de Dieu. Et par la suite, vous allez pouvoir participer même et prendre la Sainte Cène avec nous comme membre de la famille, comme un membre nouveau-né, mais aussi adopté. Vous n'aurez pas besoin d'attendre une autre semaine ou deux mois, un an avant de prendre le pas du Seigneur, mais aussi longtemps que vous êtes vraiment né de nouveau, aussi longtemps que vous êtes vraiment dans la famille de Dieu, par la foi, vous pouvez prendre la Sainte Cène. Je crois que ça serait une chose merveilleuse ce matin. J'aimerais penser que tout le monde dans la salle aujourd'hui pourrait participer parce que tout le monde ici est dans la famille de Dieu. Qu'on peut tous sortir d'ici en sachant qu'on sort comme une famille pour aller toucher le monde cette semaine. Avec les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne, deux personnes ou plus, je ne sais pas, que si vous êtes honnête, vous n'êtes pas sûr que vous faites partie de la famille de Dieu. Vous n'avez pas l'assurance de votre salut éternel. Si c'est le cas, et vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus-Christ ce matin? Il y a une personne, il y a deux personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. C'est une chose sérieuse. Alléluia. Donc, il y a deux personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire partie de la famille de Dieu ce matin? Juste lever la main. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Peut-être vous êtes ici et vous avez déjà donné votre vie au Seigneur dans le passé, mais vous avez besoin de renouveler votre engagement. Vous vous êtes éloigné de lui et si vous êtes honnête, vous êtes vraiment dans un état, on pourrait dire, rétrogradé, éloigné de Dieu. Mais vous voulez vous consacrer de nouveau à Jésus. Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, il y a une autre personne. Alléluia. Quelqu'un d'autre ce matin? Alléluia. La famille de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc moi, j'aimerais vraiment, je vais vous demander à faire quelque chose qui est peut-être difficile pour la chair émotionnellement, mais c'est important parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais ceux qui ont levé la main pour recevoir Jésus, et j'aimerais juste que tu viennes ici, on va prier ici en avant ce matin. Prends un pas de la foi. Ne sois pas gêné. Et on va juste faire une prière ensemble. Je pense qu'il est important que tu fasses ce geste parce que ça va t'aider. Si tu n'es pas capable de le faire ici dans la famille où tout le monde t'aime, tu vas avoir de la misère à la faire. Juste bien, ne sois pas gêné. Come on. Alléluia. Et juste, tiens-toi ici, regarde-moi et on va faire cette... Non, tu veux pas? Mais tu es debout quand même, hein? Il est debout, il veut confesser le Seigneur Jésus là, hein? Mais je comprends, des fois il y a des personnes qui sont plus gênées que les autres. Mais il est important qu'on ne soit pas gêné. Jésus a dit même, hein? Si tu as honte de moi, je vais avoir honte de toi. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Et la raison pour laquelle j'ai demandé que tu viennes en avant, que tu te lèves debout, c'est parce qu'en faisant cela, ça va te donner une force dont tu auras besoin, pas forcément ici à l'église, mais demain matin ou pendant la semaine quand tu es entouré des personnes qui ne croient même pas que Dieu existe. Parce que si tu es capable de tenir debout devant les chrétiens, de dire « Oui, moi aussi je suis chrétien, j'aime Jésus et je n'ai pas honte de le dire », ça va te donner la force dont tu as besoin quand tu es entouré par des non-croyants aussi. C'est par amour que je te le demande, ce n'est pas pour t'embarrasser ou quoi que ce soit. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui a à cœur de se rejoindre à eux ce matin, juste viens. On va prier au nom de Jésus. Alléluia. Soyez pas gênés. On va faire cette prière. Père Céleste, et répète cette prière après moi, tout le monde. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'aujourd'hui, je te donne ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre, je vais t'obéir, je vais vivre pour toi, Seigneur, le restant de mes jours, au nom de Jésus. Merci, Père, je fais partie de ta famille, je suis ton enfant, je suis ici avec mes frères et les sœurs, qui seront mes frères et mes sœurs, pour toute éternité, au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Comme ça, on avait 4 personnes qui sont levées debout ce matin. Vous pouvez aller à vos places pour tout de suite parce qu'on va recevoir la Sainte Cène. Mais après, s'il y a des gens qui ont des questions, on aimerait bien parler avec vous et répondre à vos questions. Mais si les personnes qui vont servir le repas du Seigneur ce matin sont prêtes à commencer à distribuer le pain et le jus, on va le faire avec un esprit de reconnaissance et de révérence ce matin. Vous savez que vous si vous avez prié cette prière ce matin, avec foi, le Seigneur vous a entendu et vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas une émotion. Ça se peut que c'était sec, vous n'avez ressenti rien dans votre cœur. Ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des frissons qui vont valider l'expérience. C'est la foi en Dieu qui compte. Et je veux juste que vous sachiez que vous êtes né de nouveau et que maintenant vous êtes né comme un bébé. Il faut grandir comme bébé, il faut boire du lait spirituel. Et ça se trouve dans la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas une Bible ce matin, on aimerait vous offrir une Bible avant que vous partiez.